Votre podcast Swing vous est présenté par Strixon et ses balles Z-Star, Z-Star XV et Z-Star Diamond. Victorieuse sur tous les circuits, elle performe comme vous l'exigez. Brooks Koepka, Hideki Matsuyama ou encore Shane Lowry les utilisent. Alors pourquoi pas vous? Les balles Z-Star de Strixon sont disponibles dans plus de 600 points de vente en France.
Salut à tous, bienvenue dans Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. Émission spéciale Ryder Cup, les deux équipes sont connues, les picks européens sont tombés, on en parle tout de suite. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Thiou, c'est Benjamin Cadieu de Journal du Golf. Salut messieurs.
Salut JP.
Salut JP.
Et Romain Lefebvre de l'équipe.
Salut, salut, salut tout le monde.
Alors évidemment messieurs, on a assisté à l'annonce en direct, hein, comme le tirage au sort de la Ligue des Champions, des phases de poule ou de la Coupe du Monde. Alors voilà, on a vu ces choix du capitaine Luke Donald qu'on va détailler ensemble. Tommy Fleetwood, Justin Rose, Zeb Straka, Nicolas Hjorth, Sean Lowry et Ludvig Hallberg. Voilà, c'est finalement des choix, on va dire, logiques ou surprenants.
Ben, il y avait un petit débat avec Meyronc, le joueur polonais dont tu vas peut-être vouloir nous parler plus tard, JP, mais c'était une belle surprise avec Hogarth. Enfin, en tout cas, c'était le gros débat. Meyronc qui avait super bien performé sur le parcours de la Ryder en gagnant
à Rome, ouais.
L'Open d'Italie. C'était il y a combien de semaines, combien de mois ça ? C'était encore récemment.
Ouais, c'était au mois de mai, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser que se jouant sur ce parcours de la Ryder Cup, qu'il avait une chance d'être
ouais,
sélectionné.
Ça, plus un peu de constance, puisqu'il est troisième de la race. Donc Luke Donald qui se prive du troisième de la race, vainqueur de l'Open d'Italie, et du quatrième de la race, Victor Pérez.
Et onzième du classement European List aussi. Meyronc est premier non sélectionné dans cette... Dans ce classement. Donc
ça veut dire qu'il y a d'autres années où il serait passé automatiquement, les années
où il y avait moins de pics,
il serait peut-être passé.
Bon, bah, encore une fois, je pense que le capitaine a ses raisons, comme pour l'équipe américaine, ne vous en déplaise, Jean-Philippe.
Oui, et surtout quand je pense à un capitaine comme ça d'équipe fait une équipe, il ne regarde pas uniquement le classement, surtout pour les pics.
C'est pas un scandale, Hjorth, par rapport à Meyronc. Ces deux rookies, honnêtement, leurs résultats se tiennent à peu près. On pensait plutôt Meyronc, que s'il prend Hjorth, c'est qu'il doit avoir ses raisons. Les autres ont dû lui dire on préfère jouer avec Hjorth que Meyronc, j'imagine. Mais moi, je ne suis pas dans les petits papiers du capitaine.
Alors évidemment, Romain, Tommy Fleetwood, Justin Rose, des choix finalement logiques, la choix de l'expérience, de la continuité, de cet esprit d'équipe Ryder Cup.
L'expérience, le passé, avoir une équipe avec des rookies, c'est toujours un peu un pari, c'est un peu hasardeux. Donc il faut systématiquement renforcer avec du lourd, du costaud. Fleetwood, c'est 3 participations, Rose, c'est 6, il me semble. Donc voilà, il y a un passé, il y a un vécu, donc ça, c'est déjà solide. Moi, je trouve que je suis pas étonné parce que c'est la forme du moment, mais la présence d'Haberg dans l'équipe... je me demande si c'est pas un peu trop posé, quoi. C'est quand même quelqu'un qui est professionnel depuis juin.
C'est la surprise du chef.
Au moins, c'est frais.
Est-ce que attention au t-shirt du 1.
Ouais, est-ce que ça
rider,
va supporter
quoi.
La pression
C'est une
quoi.
Pression
ils
énorme.
Ils l'enverront pas en foursomme le matin à Rome du premier tour. Enfin,
il sera en simple de toute façon, mais il aura ce frisson d'un premier départ.
Il est pro depuis 2 mois, mais il a battu tous les pros qui sont là depuis des années ce week-end, quoi.
Certes,
mais il est quand même annoncé comme le nouveau. Comme l'un des futurs plus grands joueurs du monde, et il le prouve depuis qu'il est pro. Ses stats sont impressionnantes. Moi, ça me choque. Alors là, et je trouve ça très bien. On a tellement dit que les Américains étaient plus forts que les Européens. Là, on prend un potentiel et le mec peut se révéler. Alors que j'ai envie de dire que même un Meyronc
ou
un
Hjorth peut aussi complètement se liquéfier.
Il peut élever son niveau, quoi. Il est capable d'élever. Enfin, on pense qu'il est capable d'élever. Les autres, on connaît leur valeur. Je veux dire, c'est des joueurs, c'est des bons joueurs, mais c'est pas des très bons joueurs. En face, il y a des très bons joueurs. Et je pense qu'un Haberg peut s'élever au niveau des meilleurs joueurs du monde. Je pense qu'il le sera un jour. On est beaucoup à le penser. Oui. Voilà. Et c'est un pari. C'est sûr que c'est un pari, mais je trouve qu'il vaut mieux prendre un pari plutôt que prendre des joueurs tous un peu les mêmes, tous des Meyronc, tous des Hjorth.
Oui, en plus. Tellement jeune, tellement frais. Qui va entre guillemets même pas avoir le temps de se prendre la tête.
Il a jamais raté un coup de sa vie en tant que professionnel. Voilà. Il a quasiment jamais raté un coup.
Et comme les autres joueurs disent, ils disent c'est un flusher, c'est un mec qui tape extrêmement bien la balle. Donc vraiment ce registre de l'insouciance fait penser que ça peut vraiment le faire. C'est pas un moyen jeune comme un jeune de 25-26 ans qui a eu le temps de faire 2-3 années de circuit avant d'aller
et de gamberger.
Là, il va débarquer et boum, ça y est, il va être au départ du 1 comme tu dis, JP, de la Ryder. Et puis pour finir pour cette histoire de Tiduin, bah on t'envoie en 4 balles. Vous la mettez 50 mètres à droite comme Luc Donald l'a fait en 2002. Vous le mettez sur la fairway d'à côté, on passe au trou suivant et puis voilà, c'est parti.
Ça peut être aussi à double tranchant, ça peut aussi complètement pas dire le briser, mais ça peut
le briser. Il est déjà
jouer une Ryder Cup, je pense, oui, à son âge. Il est déjà tout juste de débarquer pro.
Il est 90e mondial.
Le gérer quand même. Ouais, mais
il est 90e mondial, il vient de gagner encore une fois, il joue aux États-Unis de façon incroyable. Non, moi je...
Si il mais joue mal, il jouera pas. Il va jouer un double, voilà. Et puis il va jouer le simple. Ça fera 0 sur 2. Des joueurs à 0 points. On a encore un Matt Fitzpatrick qui a 4 matchs joués, 0 points. Ça arrive. Et Matt Fitzpatrick va très bien, même avec 4 matchs, 0 victoire.
Oui, après, on se doute que ce choix n'est pas sorti de nulle part. Ça a dû être longuement discuté, notamment avec Rory McIlroy ou Jon Rahm ou encore.
Il l'adore, apparemment.
Voilà, les autres piliers. C'est un choix qui est validé totalement par les piliers de cette équipe européenne.
Et en tout cas, ça a apporté une curiosité, une attente autour de ce personnage nouveau, tout frais, effectivement. Et là, pour le coup, on est impatient de voir ce qu'il va donner, quelle que soit l'épreuve dans laquelle, la discipline dans laquelle il est aligné.
Oui.
Non, mais encore une fois, l'équipe européenne est quand même beaucoup moins forte sur le papier, notamment au niveau du classement mondial.
Classement mondial.
Là, Haber, oui, est 90e mondial, mais d'après ce qu'on en dit, d'après ce qu'on en voit, c'est un potentiel top 10 mondial. Donc, quelque part, peut-être que ça renforce l'équipe européenne, là, encore une fois, où les Meronk, les Hochgaard et même Laurie, qui ne joue pas très bien cette année, et tout cela, et les Straka, c'est quand même plutôt entre la 30e et la 50e place mondiale. Il n'y a pas un Américain au-delà de la 20e place mondiale, ou si, il y a peut-être Thomas, 25e, mais donc voilà. Donc il faut
25-26, Foller 26.
Voilà, ils ont, je trouve qu'il a raison de prendre un potentiel.
Il est obligé
de prendre un risque. Quoi.
S'il a voulu prendre 6 picks, c'est justement pour pouvoir tenter des paris comme ça. On est d'accord, les gars?
Absolument.
Ouais, justement, c'est d'ailleurs l'objectif des picks aussi, c'est de sortir un peu des sentiers battus et trouver la pépite qui est dans la forme du moment. On voit aussi évidemment un joueur comme Sepp Straka qu'on connaît peut-être un peu moins, mais deux victoires sur le PGA Tour, dont cette année, en 2023.
Ce que je veux dire, si on était encore à 2 picks comme c'était encore le cas il y a la décennie précédente, là, je pense qu'à Berg, on ne l'aurait pas vu.
Ça aurait été l'expérience plutôt.
Voilà. Il partait trop loin.
On n'aurait pas pris de rookie ou très peu, quoi.
Alors justement, on voit également dans cette équipe, on l'a dit, un Justin Rose, un Sean Lowry qui pourtant qui n'est pas dans sa grande forme, dans sa meilleure forme
c'est
du moment.
Mais Baron, on est obligé un peu de le prendre, faut de l'expérience.
On l'avait vu en 2012 avec Martin Keimer qui n'était pas non plus dans une folle.
Thomas Peters 2016 qui a surcartonné avec l'équipe européenne en tant que rookie.
Et puis après, il y a aussi la configuration du parcours. Toi, Benjamin, tu l'as joué. C'est un parcours où les bons joueurs de fer peuvent exceller. Est-ce que tu confirmes ça et est-ce que tu penses que c'est un profil qui peut aller à Sean Lowry justement?
Sean Lowry, il a aussi un super chipping, super petit jeu et puis un mental de match player. On l'avait vu encore à Whistling Straits, c'était un peu le seul, si je dis pas de bêtises, qui avait un peu secoué le cocotier américain. C'était le samedi là, vous savez, quand il s'est mis un peu à danser la Macarena sur le green du 17, son pote victorieux là. Donc non, moi je suis hyper pas choqué de voir Lowry dans l'équipe et au niveau du profil, ça dépend s'ils ont réussi à faire pousser les roughs aussi haut que voulu. Alessandro Hayes a dit qu'ils avaient tout fait pour, il laisse un petit peu de mystère, vous le lirez dans le prochain journal du golf, mais avec beaucoup de roughs, forcément ça va favoriser les bons ball strikers, mais de toute façon, quel que soit le type de parcours.
Non mais là aussi c'est pareil, c'est là où l'équipe, le potentiel européen est quand même plus faible, on n'a pas les moyens de se passer d'un Sean Lowry, voilà, il vaut mieux un Sean Lowry en espérant que pendant un mois il arrive à retrouver son semblant de niveau ou en tout cas le niveau requis ou sur quelques trous, et peut-être qu'en match play ça va suffire, mais on peut pas se passer d'un Sean Lowry. Il a quand même, c'est un des rares Européens à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem ces dernières années. On peut pas se passer de Sean
en 2019
Lowry, il pouvait pas s'en passer. Luc Donald, la preuve c'est qu'il
ouais, c'est sûr.
Honnêtement, moi pour moi sa sélection ne se discutait pas. Quand on voyait comme celle de Justin Rose, ça fait partie des joueurs, on est bien content de les avoir. Dieu sait qu'avant on avait les Garcia Poulter et compagnie qui sont plus là, de toute façon, qui étaient peut-être trop vieux.
Ouais, mais
voilà,
qui
pour l'instant,
être,
Sean Lowry est incontournable.
Qui aurait surtout pu jouer un rôle en vice-capitaine, hein, Ian Poulter, avoir un Ian Poulter, Westwood.
Et puis même le capitaine, ça rentre pas les potes. Hein.
Non.
Mais avoir un Ian Poulter en tant que vice-capitaine, ça peut aussi porter avec l'expérience qu'il
a.
Oui,
ça aurait pu aider. Non, mais là, on parle des joueurs et encore une fois, on peut pas se passer, les Européens n'ont pas les moyens de se passer d'un Sean Lowry. Sinon, vous faites rentrer un Meronk ou des gens genre là, en plus de Hochgaard, en plus de Haber, enfin ça commence à faire beaucoup.
Et donc, avec cette annonce, pas de Français dans cette Ryder Cup. On le sentait hein, quand même, c'était pas annoncé, mais...
C'était quasiment joué.
On savait que s'il était renté pas dans les points automatiques...
Le cut raté en Suisse, c'était un peu le dernier clou sur le cercueil de ces...
Il fallait qu'il gagne.
La dynamique n'était pas pour Victor Pérez, qui d'ailleurs a refusé de commenter l'équipe européenne de Ryder Cup. On sent un peu de frustration dans cette annonce, Romain.
Ouais, d'autant plus que je me souviens que quand on l'avait quitté à The Open, il nous avait dit quand même qu'il sentait que ça lui échappait et il était presque en projection sur l'après Ryder Cup. Et il disait, on lui avait demandé est-ce que tu vas jouer les trois derniers tournois qualificatifs, à savoir l'Irlande, le Xex Masters et Écran Sourcière. Et il avait dit, je ne vais pas tout sacrifier pour, au risque de, d'hypothéquer ma fin de saison avec des enjeux très importants, avec le BMW, la Race to Dubai et cette place dans le top 10 du classement européen qualificatif pour le PGA Tour l'an prochain. Donc, il n'était pas certain qu'il s'aligne sur ces trois tournois-là et il disait même que Écran Sourcière, c'était un parcours qui ne lui convenait pas du tout. Donc, on sentait pour lui qu'il était résigné. Et je pense que la coupure qu'il a eue, les vacances qu'il a eues, peut-être un discours avec Luke Donald qui lui a dit « Accroche-toi, t'es encore, si tu joues ces trois tournois-là, tu peux accrocher une place. » Moi, j'étais très étonné de voir qu'il s'alignait dans les trois tournois. Donc, il y en a un où il a son Covid en Irlande et puis après, il fait une bonne 11e place à Prague. Et puis, il loupe le cut à Crans-Montana. Ça veut dire qu'il a joué jusqu'au bout la qualif, ce qui n'était pas évident. Juste après son dernier tour de The Open. Donc, il s'est accroché, je pense, avec la réflexion, avec sans doute peut-être les conseils ou en tout cas la motivation de Luke Donald, avec qui il était très proche. Je pense, Benjamin, tu te souviens, on l'a vu beaucoup discuter au putting green à The Open.
On l'avait vu à l'USPGA partager une partie avec Luke Donald, Jon Rahm.
De toute façon, il était tout prêt quand même.
Même
s'il a raté sa fin de saison et notamment le sprint final, il était quand même tout prêt. Il a été dans les clous encore une fois.
Mais c'est vrai qu'on sentait après cette 12e place à l'USPGA que c'était. Pas quasiment fait, mais que c'était en bonne voie. Et après, on a senti qu'il y a eu une descente.
Jusqu'à mi-saison, on a l'impression qu'il coche toutes les cases. Cette expression-là est insupportable, mais en même temps, elle est vraiment réelle en ce qui le concerne, parce que au-delà de ses résultats, au-delà de sa place dans le classement par points européen, il a fait une très bonne Hero Cup où il rapporte 3,5 sur 4 en étant impeccable au sein de l'équipe d'Europe continentale. Il accroche une 9e place à l'Open d'Italie sur le Marco Simone. C'est un très bon joueur de match play, ça on le sait, puisqu'il a été 4e du WGC en 2021
à Austin. Il fait son pet où il est 4e avant le 17e.
Voilà, donc à ce moment-là, on se dit, dans les points ou pas dans les points, il sera pix. Enfin voilà, il y a quand même 9 chances sur 10 qu'il soit... et puis tout s'est délité en très peu de temps finalement, parce que le US Open, entre mi-juin et aujourd'hui, tout s'est délité.
Il faut se souvenir que l'année où Victor Dubuisson se qualifie dans les points en 2014, il réalise quand même de solides performances en majeur.
7 ou 8 perfs.
Dont 2 top 10 en majeur.
7 ou 8 perfs, on va dire, de niveau mondial, c'est-à-dire du WGC, du très gros tournoi européen ou américain et les majeurs. Mais moi ce qui me chagrine un peu dans cette histoire, c'est que l'histoire semble se répéter du niveau des rendez-vous manqués entre la Ryder Cup et Victor Pérez. Il était quasiment sûr de jouer la Ryder Cup s'il n'y avait pas eu le Covid. Oui. Derrière, il se retrouve in the bubble, vraiment chaud pour être qualifié dans la même situation qu'au printemps. Ça passe pas, il n'a pas fait ce qu'il fallait. Et là, ça se répète encore. Et comme nous l'avait dit Nicolas Colsart à Liverpool, il a dit, les joueurs sont dans ces situations-là. Et puis, il y a ceux qui font et ceux qui font pas. Et là, ça fait deux fois. Et le dernier truc qui me chagrine...
Il a laissé passer le wagon Ryder Cup, Benjamin.
Pour l'instant, ça fait trois riders où ça se goupille mal. Et ce qui me chagrine un peu...
Deux riders et demi.
Ouais. Ce qui me chagrine un peu, c'est pas très grave. On va pas le prendre pour nous. Mais c'est cette posture. Ah, vous savez, vous les médias.
Les médias qui
me mettaient la pression après chaque tour à me dire à quelle position je dois terminer et tout.
Alors cette petite phrase sortie lors du British Open.
Mais pas que. Je crois qu'il l'a encore redit en Suisse à la presse qui était présente la semaine dernière. C'est les médias qui mettent la pression.
Il se cache un peu derrière ça, derrière la pression donnée par les médias.
J'irai pas jusque-là, mais je trouve que c'est un peu révélateur d'une certaine. Le mot est un peu fort, fragilité, à ce niveau-là. Quand vous voulez faire partir des 12 meilleurs Européens, il n'y a pas la place pour dire c'est les médias qui me posent des questions, qui me mettent la pression. Parce que les médias français, excusez-moi, on en fait partie.
Et c'est
on n'est pas les plus féroces de la Terre.
Si on veut pas avoir de pression, non mais si on veut pas avoir de pression, il faut évidemment qu'il a la pression parce qu'il joue bien, donc on lui pose des questions. Enfin, c'est l'un ne va pas sans l'autre finalement.
Non mais c'est d'autant plus à côté de la plaque que la Ryder Cup, il en a fait lui-même un objectif personnel, il l'a confié à son entourage, c'était son objectif de l'année. Son objectif de l'année, c'était de gagner un gros tournoi, il l'a fait, à Abu Dhabi, très bien, et de se qualifier pour la Ryder. Donc il a rempli le premier objectif, il n'a pas rempli le second, mais ce n'est pas nous qui avons fixé ses objectifs en début de saison, ce n'est pas les médias, ce n'est pas les journalistes, et c'est surtout lui-même. Donc c'est lui qui se met la pression tout seul. Et évidemment qu'à partir du moment où il gagne à Abu Dhabi et où il est dans la shortlist des qualifiables, des sélectionnables pour la Ryder Cup, évidemment qu'on lui pose la question et évidemment que
on attend que ça,
il se met en cette position. Mais lui-même aussi attend que ça. Donc voilà, je pense qu'après c'est on va dire un échappatoire de langage pour évacuer le sujet, mais il sait très bien au fond de lui-même que le premier responsable c'est lui d'abord et ses performances, et moi j'ajouterais lui d'abord et son calendrier. Je pense qu'il faut en parler, c'est un joueur.
Tu parles du gros break au printemps, genre 5 semaines sans
voilà
jouer.
je pense que ça se dit beaucoup sur le circuit, on entend beaucoup les gens le dire, les agents, les entourages de joueurs, les entraîneurs. C'est un joueur qui ne joue pas suffisamment. Alors peut-être qu'il y trouve son équilibre, mais pour aller chercher une qualif en Ryder Cup dans le Money Time, dans les 6 derniers mois, il faut sans doute jouer plus.
Il a fait all-in sur les majeurs, Victor Pérez, voilà. Sur l'US Open et l'US
Open. Sauf que 144e à l'US Open, 41e au British Open.
Il en jouait que 3, surtout. Il en jouait que 3 de majeurs. Il ne jouait pas le Masters.
Il a fait all-in et ce n'est pas passé.
Et Romain, vous qui venez du tennis, on peut dire que les médias français mettent éventuellement la pression aux joueurs et aux joueuses français à cause de Roland-Garros, à cause de Noah. Enfin, il y a vraiment une vraie attente, il y a un vrai suivi. En golf, honnêtement, les golfeurs et les golfeuses français, ils sont quand même tranquilles toute l'année. Personne ne les suit, personne ne les embête.
Non,
en
tout
cas, pas
certain.
Beaucoup. Quoi.
Enfin, on les suit quand même un petit peu. C'est notre job.
Mais ça n'a rien à voir avec le tennis.
Bien sûr que l'exposition. On va parler d'exposition médiatique. C'est pas comparable. C'est pas la même chose. Nous, on sait très bien que voilà, un Victor Pérez sur une saison, si on le voit sur 5-6 événements, c'est le grand maximum. Donc voilà, parce que ça voyage beaucoup et qu'on peut pas être toujours dans leur valise. Donc voilà, ça c'est donc une excuse qui n'en est pas une, mais moi je trouve que dans la manière de voir son plan, dans la manière de voir son programme de tournoi, il y a quelque chose à revoir pour les prochaines éditions. C'est quelqu'un qui a 31 ans aujourd'hui, ça veut dire qu'être rookie en Ryder Cup à 33 ans, puisque la prochaine aura lieu dans 2 ans, c'est plus le temps avance, plus c'est compliqué d'être rookie à 33 ans. Il va falloir
ça exige
au-delà de ses performances, en tout cas si jamais il est sélectionné dans des pics, voilà, ça exige qu'il soit ultra performant et peut-être même plus qu'à son âge aujourd'hui, parce qu'il faudra montrer plus encore au futur capitaine
maintenant je pense qu'il
Ryder.
Il faudra qu'il se qualifie automatiquement,
voilà,
oui, parce que pour être dans les pics maintenant ça va être
très compliqué,
plus compliqué.
Oui, c'est pour ça qu'il aurait dû, c'est facile à dire, mais valider et verrouiller sa place bien avant et pas attendre les derniers moments, les derniers tournois.
Ce qu'a dit Nicolas Colsart, il y a ceux qui font et puis les autres.
Oui, on se souvient même l'année où Nicolas Colsart, lui, a été choisi en pique par José María Olazabal. Il avait fait aussi une année où il avait gagné, il me semble, 2 fois, dont le Volvo Match Play.
En Match Play, oui.
Voilà. Donc, bon.
Et c'est ce que disait Thomas Levet à The Open, il disait, pour être sélectionné dans les pics, il faut enchaîner les performances. Au-delà du top 10, votre nom n'est plus dans la liste. Il faut faire du top 10, dans les majeurs, dans les tournois. Toutes les semaines, il faut être présent au leaderboard en permanence. Et voilà,
comme à Berg, faire des gros pets
dans le Money Time.
Dans le Money Time. Cette équipe européenne, on l'a au complet, qui va affronter une équipe des États-Unis qui s'annonce redoutable. Patrick Cantlay, William Clark, Brian Harman, Max Homa, Scottie Scheffler, Xander Schauffele. Et en picks, Ricky Fowler, Brooks Koepka, Colin Morikawa, Sam Burns,
Jordan Spieth, votre plus grand plaisir.
Et Justin Thomas.
Du lourd.
Du lourd.
C'est du lourd, de l'expérience. On a l'impression que tu parlais de cases à cocher, Romain. Il coche quand même pas mal de cases là.
Encore une fois, le plus mauvais, tu disais, Romain.
26e Ricky Fowler.
Moyenne du classement mondial, c'est 13e quand on fait la moyenne.
C'était un peu mieux il y a 2 ans.
C'était 9e en 2021. Voilà.
Mais on est habitué avec les États-Unis d'avoir une grosse armada en face.
Ouais, ouais.
Et ça nous empêche pas de les battre à la maison.
Après, on peut, en cherchant bien, on peut trouver des failles quand même. Voilà, on a Justin Thomas qui est dans l'équipe parce que c'est un boss, c'est un patron, c'est un cadre de cette équipe américaine.
C'est le pote de Jordan Spieth aussi.
Voilà, mais bah, bon,
le pote et le partenaire et le, de double.
Et de Ricky Fowler aussi.
Ouais. Oui, c'est les trois. Mais bon, lui, pour le coup, sa saison, on peut pas parler de catastrophe, mais on n'est pas loin quand même. Quand
c'est la pire saison depuis qu'il est pro.
C'est la pire saison depuis qu'il est pro. Et je crois qu'il a quand même enchaîné deux tours en majeur à plus 11, c'est-à-dire le dernier le tour non qualificatif aux États-Unis à l'US Open où il fait plus 11 et son premier tour au British il fait plus 11 aussi, donc deux fois 82, enfin une fois 80.
C'est du stroke play, bon.
Voilà. Donc non mais c'est pour
mais
quelqu'un,
après,
pour
mais
un
il
joueur,
a pas fait que ça, il a raté beaucoup de cuts.
Pour un joueur de ce calibre, c'est quand même.
Mais on sait que cette épreuve peut le transcender. Il est voilà. Habité par la Ryder Cup et.
Ouais,
et
puis voilà. quand on vous offre une telle preuve d'amour, parce que là on parle d'amour, oui. Quand on sélectionne un joueur comme ça, c'est que l'équipe vous aime, que le capitaine vous aime.
C'est soit une preuve d'amour, soit une pression supplémentaire.
Voilà, on va voir comment
il le supporte et comment il joue.
Et j'aimerais pas être dans la peau de Justin Thomas
au
départ du 1, ou surtout sur le green du 1, si vous démarrez avec un testeur un peu d'1m80, 2 mètres, un peu bizarre pour partager le trou. J'aimerais pas être dans ses chaussures à ce moment-là, mais ça va, il va être, je pense, les gars, le joueur le plus scruté de l'équipe américaine. Quoi.
Ah bah c'est le choix qui a été le plus commenté, controversé. Pourquoi lui plutôt qu'un Keegan Bradley, par exemple
Keegan Bradley, il a une bonne quarantaine d'années et l'argument du staff américain, c'est que c'est un peu le boys club, c'est un peu une équipe de potes et il en fait clairement pas partie, Keegan Bradley, parce qu'il est un peu plus âgé que les autres et que
il y a un côté générationnel qui l'exclut.
Et c'est pas le caractère le plus simple de la team US. En fait.
Alors quelle place pour Wyndham Clark et Brian Harman qui vont découvrir leur Ryder Cup? Alors on parle du tenant du titre de l'US Open et du British. Voilà Brian Harman qui est
c'est pas sûr que ça va jouer comme ça sur le papier, évidemment ça peut se goupiller comme ça un dimanche après-midi, mais c'est pas eux qu'on va scruter en priorité, et s'ils ramènent un point à eux deux les États-Unis perdent, ouais, à eux deux bah c'est possible. Regardez Jordan Spieth, un point il y a encore deux ans.
C'est possible, mais bon,
c'est pas sur eux qu'il faudra taper en priorité, c'est ça que je veux dire.
Il y a eu des précédents avec Ben Curtis et Sean Michaels, je pense, qui avaient été pris sur leur performance en majeur et qui n'ont pas été des rookies tout à fait convaincants,
qui n'étaient pas aussi bien classés qu'eux,
certes. Mais bon, on peut espérer. Je suis là en train de chercher quelques notes d'espoir.
Arnaud, c'est sûr qu'ils sont moins en forme qu'il y a deux ans. Et puis encore une fois, c'est en Europe. Il y a quatre ans, beaucoup prédisaient une grosse victoire américaine. Certains sont présents autour de cette table. Au Golf National, on peut aussi le craindre. Effectivement, l'équipe américaine est impressionnante, un peu moins impressionnante qu'il y a deux ans. Pas forcément plus
forte. Il y a deux ans,
que...
c'était 9 à 19.
Pas forcément plus forte qu'il y a 4 ans, quand
mais
même.
Ça fait 28.
Parce qu'elle était impressionnante aussi. Bon, en tout cas, ça va. C'est chez nous, avec le parcours préparé pour nous. Moi, comme d'habitude, j'y crois. Il ne faudra pas qu'ils partent devant. Il ne faut pas qu'ils commencent à jouer au Ricain sur deux.
Il faut que nos gros
joueurs
côté européen jouent bien. C'est-à-dire, si Rory fait encore une Ryder Cup en demi-teinte, ça va être compliqué. On a l'impression qu'on n'a pas de plan B côté européen.
Un peu plus maintenant quand même. Hein.
Ouais.
On en a trois dans les quatre premiers mondiaux. On a trois dans les quatre premiers mondiaux.
Il y a juste un truc.
Hollande qui est pas mal aussi en ce moment. Ouais. Il joue bien.
Bah, il
est dans les quatre. Ouais.
Les quatre.
Il y a un truc qui m'inquiète, mais je crois qu'Arnaud, tu n'es pas d'accord avec moi, c'est que toute l'équipe de Foursome est à reconstruire côté européen. Les paires de 2021 ne peuvent pas être reconduites puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis.
Moi, je suis
Paul Casey, Ian Poulter,
Wisberger.
Ça se crée, encore une fois, Molinari, Fleetwood, personne ne les avait vu venir. Ils ont défoncé tout le monde. Si ils jouent bien les Européens, les paires, elles se créent. Quand votre partenaire vous met au milieu du fairway et qu'après il vous met à 2 mètres du trou.
C'est facile avec vous, le golf, Arnaud.
Mais non, mais c'est vrai. Non, mais à ce niveau-là, honnêtement, c'est les meilleurs joueurs du monde, même si les Européens sont un peu plus loin. Les paires de foursomme, elles vont se créer. Ils s'entendent bien, d'ailleurs. En plus, c'est peut-être pour ça que Méron qui n'est pas là. Ils ont choisi un peu Haber, ils ont choisi un peu leurs potes, les gens avec qui ils se sentent bien. Moi, je ne suis pas inquiet pour la création des paires.
Il y a une phrase qui est porteuse d'espoir, qui ne vous a peut-être pas échappé. C'est après le BMW Championship, Hovland. Qui, alors qu'il a ce profilant devant lui, la victoire de la FedEx Cup et un jackpot de 18 millions de dollars, on a un mois et demi de la Ryder et il dit à Rory McIlroy qui vient de tréfler, on va s'amuser à Rome. Ça en dit long sur ce qu'ils ont dans la tête, c'est-à-dire qu'à un mois et demi du rendez-vous, alors qu'il est en train de batailler pour des millions, il pense déjà à la Ryder Cup et au fait voilà, ça, moi, je trouve que ça raconte l'état d'esprit européen, ça raconte une forme de passion pour cette Ryder, pour cette épreuve. Et ben, ça en dit peut-être beaucoup aussi sur l'ambiance qu'il va y avoir au sein de l'équipe européenne.
On a jamais, l'Europe a jamais été aussi forte en exagérant un poil, en étant underdog, en étant challenger.
Oui, mais surtout qu'encore une fois, il y a 4 ans, tout le monde prédisait tellement une débâcle européenne. On a quand même vu que voilà, les Européens, et encore une fois...
Oui, mais le calendrier est propice aux USA maintenant. Oui, maintenant que le Tour Championship est fin août. Mais
les USA qui n'ont pas gagné depuis 93.
Encore une fois, on a des joueurs en Europe qui sont beaucoup plus forts qu'avant. On a 3 des 4 meilleurs joueurs du monde. On a de quoi tenir le choc des Américains, je pense, d'un point de vue purement golfique, à peu près. Plus l'avantage du parcours et du public, je pense que ça s'équilibre. Après, évidemment, ça va se jouer sur chaque trou, sur chaque putt. Ça va être fabuleux à suivre.
Mais
c'est
désormais,
ça qu'on
les
en parle,
USA arrivent dans un état de forme beaucoup plus frais, puisqu'ils ont eu le temps de digérer le Tour
Championship. Mais la victoire n'en sera que plus belle.
Puisque le Tour Championship se jouait une semaine ou entre deux et une semaine avant la Ryder Cup avant.
Donc exactement, même une, je crois, même
une semaine. Parce que Woods venait de terminer.
Ouais, exactement, il venait
d'arriver dans complètement lessivé à Paris, complètement carbonisé.
Allez, en tout cas, messieurs, on va suivre ça avec passion sur l'équipe.fr.
On n'a pas fini d'en parler.
Dans le journal L'Équipe et sur Journal du Golf TV. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!